Bonjour et soyez les bienvenus à cette émission de Radio Linguistica. Notre sujet aujourd'hui, la déforestation. Le titre, c'est « Trois fois la France, la déforestation importée et le Green Deal ». Je salue ici le journaliste Xavier Dupré qui nous explique les raisons économiques et l'impact climatique de cette catastrophe écologique. Bonjour Xavier.
Bonjour Conrad.
Xavier, trois fois la France, qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte? Et pourquoi est-ce que ça s'appelle déforestation importée?
Alors, à l'origine de cette émission, il y a bien tout simplement l'existence d'un projet de loi européen qui va lister une série de produits qui sont issus de la déforestation, de filières de déforestation dans des pays principalement au sud, et qui sont importés en Europe, d'où l'idée de déforestation importée. C'est-à-dire qu'en réalité, sans la demande de nombreux secteurs ou de ménages européens, on peut supposer que cette déforestation au sud eût été inférieure à ce qu'elle a été dans le passé. Alors, pour situer le phénomène maintenant d'un point de vue très quantitatif, on parle de trois fois la France. En réalité, on parle de la déforestation importée qui est essentiellement un phénomène chinois et européen, on donnera peut-être les chiffres par la suite, a représenté entre 2005 et 2017 pas moins de très exactement 3,5 millions d'hectares. Et ça évidemment, bon, c'est une signification. Voilà. J'ai presque envie de dire que c'est beaucoup plus que le Vatican qui fait 44 hectares. Donc là, on est sur des réalités qui sont continentales. C'est la France, c'est plusieurs fois la France. Et donc, en réalité, c'est un continent de forêt qui a été sacrifié sur l'autel d'un certain type de filière industrielle et d'un certain modèle agro-exportateur à destination de l'Europe.
Si je me rappelle bien, le chiffre de trois fois la France se réfère aux derniers 30 ans. Mais
c'est ça, oui.
Mais ça là ne cesse pas
oui,
d'augmenter.
Annuellement, oui, c'est vrai. Annuellement, en réalité, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on a tendance à voir la déforestation progresser année après année. Donc, voilà. Mais je ne me souviens plus du chiffre. Il faudrait simplement prendre la superficie de la France, la multiplier par 3. Mais effectivement, au cours des 40 dernières années, c'est l'équivalent de trois fois la France, c'est-à-dire l'Europe occidentale. C'est un continent de forêt qui a été sacrifié. Donc ça, c'est un enjeu qui est absolument important, puisque dans la lutte contre le réchauffement climatique, les forêts jouent un rôle important de capteur de CO2. Sacrifier des forêts, c'est forcément, à un moment donné, se priver d'un outil contre l'absorption et le recyclage de CO2, donc avec un impact négatif en termes de réchauffement climatique.
Là aussi, j'ai lu des chiffres que je me rappelle plus exacts, les chiffres exacts, mais que c'est quand même une part énorme de l'effet climatique. C'est-à-dire, la déforestation, c'est pire que beaucoup d'autres choses qu'on fait avec le climat.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, toujours pour reprendre des chiffres plus récents, parce qu'en matière d'émissions de gaz à effet de serre et de CO2, les années 80-90 étaient quand même nettement moins précises. En réalité, on a bien mesuré, on s'est attaché à mesurer au plus près l'impact des émissions de gaz à effet de serre et de CO2 à partir du moment où il y a une vingtaine d'années, on a commencé à parler d'une priorité de lutte contre le réchauffement climatique. Mais donc entre 2005 et 2017, le phénomène de la déforestation importée a représenté 1807 millions de tonnes de CO2. On en est là. 1807 tonnes de CO2. Et donc ça, c'est évidemment très important puisque ça représente grosso modo 40% des émissions globales de l'Union européenne.
Oui, c'est cette relation qui est intéressante parce que ça ne nous servira à rien d'avoir de l'énergie verte chez nous si au même temps on perd des forêts, une quantité de forêts tellement énorme.
Ah, évidemment, oui, puisqu'en fait, il y a, si vous voulez, il y a deux éléments à la stratégie de prévention du réchauffement climatique. Il y a la mise en avant d'autres filières industrielles, et donc ça passe notamment par la généralisation d'énergies beaucoup plus douces et moins décarbonées, quelque part. Là, il y a une stratégie de prévention basée sur l'isolation, ne pas émettre de CO2 plutôt qu'en émettre, et d'autre part, il y a la préservation des capteurs de CO2 à l'échelle mondiale. Donc là, de ce point de vue-là, si en Europe, en réalité, on en arrivait à décarboner notre économie tout en continuant à progresser dans le rythme actuel de déforestation, en réalité, on aurait pratiqué une espèce de jeu à somme nulle. Ce qui aurait été gagné d'un côté sera perdu de l'autre. Et donc, en termes d'impact global, général, sur le réchauffement climatique, eh bien, en réalité, on n'aura pas avancé d'un pouce.
Et quelles sont les raisons économiques de cette déforestation? Pourquoi est-ce que ça rapporte aux pays qui pratiquent la déforestation? Quels sont les produits concernés?
Alors, les produits concernés sont des produits quand même relativement importants dans toute une série de filières industrielles. Il y a par exemple le premier produit, toujours entre 2005 et 2017, en termes de pourcentage du phénomène de la déforestation importée, c'est le soja, qui représente plus de 30% de ce type particulier de déforestation. Alors, l'intérêt économique du soja, c'est qu'il est produit en Amérique du Sud parce qu'il est transgénique, donc il va supporter énormément de pulvérisation avec des pesticides très puissants, le Roundup Steady. Donc, on a là un effet très intéressant puisque économiquement, c'est un autre modèle d'agriculture, c'est une agriculture extensive qui est pratiquée en Amérique du Sud. Donc, il y a des rendements, il y a des coûts à l'hectare, il y a des économies d'échelle qui sont beaucoup plus importantes. Par ailleurs, le fait d'avoir généralisé le soja transgénique va permettre un rendement à l'hectare qui a été potentialisé, et donc le soja qui est produit dans cette partie du monde, entre le centre de l'Argentine et le sud du Brésil, eh bien en réalité c'est le soja le moins cher et le plus compétitif au monde. Et il entre directement dans la composition du bol alimentaire du cheptel bovin mondial. Donc l'intérêt économique, c'est de quelque part produire de la viande moins chère. Et l'alternative qui va un jour se poser aux ménages européens et aussi d'Amérique du Nord, il n'y a pas de raison de pointer exclusivement l'Europe du doigt, ça va être de consommer moins de viande. Mais là, on n'y est toujours pas. Mais donc ça, c'est le soja. Et ensuite, on retrouve c'est toujours la filière alimentaire, hein, puisque si on regarde le deuxième produit qui, durant cette quinzaine d'années, 2005-2017, enfin 12 ans, a été responsable, le deuxième responsable en termes d'importance de la déforestation importée, il s'agit de l'huile de palme, 24% de la déforestation importée. Alors l'huile de palme, bien, ça entre directement dans la composition non plus du bol alimentaire du cheptel, mais dans l'alimentation des humains, avec des effets sanitaires qui sont très très négatifs, mais sachant aussi que l'huile de palme est très bon marché et s'utilise un peu partout. Il y a là encore ce phénomène de économie d'échelle qui permet tout simplement d'avoir une production d'huile de palme sur de très grandes quantités, avec des normes phytosanitaires en matière de pesticides qui sont beaucoup plus permissives qu'en Europe occidentale, en Amérique du Sud et en Indonésie. Et donc à partir de ce moment-là, on a de l'huile de palme qui est très bon marché et donc qui devient un substitut à certains autres produits, à certaines autres huiles traditionnelles, je pense notamment à l'huile d'arachide, et ça devient un substitut bon marché. Et donc forcément, le consommateur européen n'en aura peut-être pas vu tout à fait la différence en termes de prix pour les produits qu'ils consomment dans la grande distribution, mais pour les fabricants et les marques issues de la grande distribution elle-même, il y a eu, suite à l'introduction et la généralisation de l'huile de palme, eh bien, les profits et les taux de marge ont été multipliés d'autant. Donc ça a permis à un moment donné à des filières à la grande distribution qui était en crise de finalement retrouver des marges appréciables de rentabilité pour les produits alimentaires. Et toujours un produit alimentaire, 10% de la déforestation importée, c'est le bœuf directement. Le bœuf qui est une catastrophe sanitaire, enfin, une catastrophe environnementale à triple titre, puisqu'il est nourri sur place ou en Europe avec du soja issu de la déforestation. C'est un émetteur de méthane. Et par ailleurs, lorsqu'il est importé d'Amérique du Sud, lorsque la viande de bœuf est importée d'Amérique du Sud, eh bien, elle ne vient pas en vélo jusque sur les marchés européens. Elle vient en bateau. Et il y a encore là un rejet de CO2. Donc vraiment, ce que l'on constate d'un point de vue économique, c'est que la déforestation importée est profondément liée à l'alimentation en Europe. Et donc c'est toutes nos filières alimentaires, habitudes alimentaires et filières alimentaires qui vont devoir être repensées si l'on veut travailler sur cet axe particulier du réchauffement climatique. Ce n'est pas le seul, il y a la mobilité, il y a l'isolation et le chauffage des maisons, mais en matière d'alimentation, il y a une carte à jouer et cette carte passe par eh bien, la limitation de plus en plus importante et une volonté de s'opposer à la déforestation croissante, puisque quand même 3,5 millions d'hectares, je ne sais pas si c'est trois fois la France depuis 2005, mais ça représente quand même un grand pays d'Europe, hein. Donc voilà, donc le secteur économique, c'est l'alimentation. L'intérêt, c'est bénéficier de produits de substitution ou de produits d'alimentation du bétail bon marché. Et ce caractère bon marché, ce caractère peu coûteux des productions, et reflète la conséquence en fait d'un autre modèle d'agriculture en Amérique latine, qui est un modèle d'agriculture extensive permettant en réalité d'enregistrer des économies d'échelle. Si on regarde la répartition de la déforestation importée par pays, en réalité, on est à près de 50% de cette déforestation importée qui a pour origine l'Amérique latine. 30% Brésil, Argentine 10%, et un pays dont on parle peu en Europe d'ailleurs, le Paraguay 8%. Et qui est le Paraguay qui est, par rapport à sa taille économique et même à sa taille, sa superficie, est un grand pays producteur de soja aujourd'hui. Puisqu'en fait, c'est un pays qui se situe en fait à la même latitude et donc, que le sud du Brésil. Et donc peut, bah, pour des raisons climatiques, très très bien ajouter, enfin s'inscrire dans les mêmes filières et les mêmes chaînes de valeur que le sud du Brésil. Voilà. Donc.
Si on parle de l'huile de palme, ça concerne plutôt l'Indonésie, si je me rappelle bien.
Absolument. Oui. Donc Brésil, Argentine et Paraguay, bah, c'est clairement le soja et le bœuf. Pour ce qui est de l'huile de palme, c'est l'Indonésie. Et l'Indonésie, avec le seul facteur huile de palme, représente en réalité 22% de la déforestation importée. Or, la déforestation importée, il y a en fait 24% de cette déforestation importée, donc c'est l'huile de palme. Donc on peut dire que la quasi-totalité de la déforestation importée liée à l'huile de palme, elle fait de l'Indonésie. Effectivement.
Donc, je
24-22%.
résume, le consommateur européen achète des produits bon marché, de l'huile de palme et soja ou soja transformé dans le pays du sud, surtout l'Amérique latine et l'Indonésie, et comme ça, il provoque la déforestation dans ces pays-là. Et or, il y a un traité avec un traité avec l'Amérique commerciale, avec l'Amérique latine, avec le Mercosur. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ça?
Oui, bien sûr. Alors, le traité de libre-échange UE-Mercosur est un traité qui intéressait énormément les pays producteurs d'Amérique du Sud. Il est vrai question. Je pense qu'il faut être nuancé. C'est jamais ni tout blanc ni tout noir. Il était question d'étendre les quotas d'importation en matière de bœuf et de soja de ces pays, mais spécialement de viande bovine, en échange d'une extension des règles phytosanitaires européennes à ces pays. Ils allaient adopter finalement des règles phytosanitaires plus strictes et, du point de vue du consommateur, même local, même brésilien, ça aurait été plutôt positif. Il y a eu quand même plusieurs scandales liés à la qualité de la viande dans ce pays. En revanche, puisqu'il s'agissait d'un coût de production supplémentaire, on ne va pas se cacher que plus de contrôle égale plus de restrictions. Plus de restrictions, plus de coûts. Ces pays demandaient à bénéficier, eh bien, d'un accès plus large au marché européen. En échange, ils libéralisaient toute une série de secteurs dans lesquels, en réalité, ils ne sont pas vraiment compétitifs et ne sont pas vraiment spécialement des grands producteurs. Il n'y a pas de fabrication automobile en Amérique du Sud. C'est vrai que la deuxième plus grande usine de Volkswagen se trouve à São Paulo, mais ce qu'on fait à São Paulo, on ne construit pas des voitures, on assemble des choses qui sont déjà préfabriquées en Europe. Donc finalement, ces pays estimaient qu'ils allaient se spécialiser sur les produits pour lesquels ils étaient compétitifs et pour un certain nombre de producteurs européens, spécialement le secteur automobile, mais aussi l'industrie pharmaceutique, ben, il en résultait un effet équivalent. Ça n'aurait peut-être pas été nécessairement plus mauvais pour les consommateurs latino-américains, hein, puisque de leur côté, ben, ils auraient importé des médicaments et des voitures un peu moins chères. Je ne suis pas sûr que c'était l'avenir, en tout cas pour la voiture, sur le plan environnemental. Quoi qu'on puisse voir, qu'on constate dans ces pays un grand retard en matière de voitures électriques. Donc de toute façon, ils importeront des voitures. Alors ce traité aurait quand même été d'un point de vue environnemental problématique puisqu'on allait importer davantage de viande, donc davantage de soja transgénique pour nourrir du bétail sur place, émetteur de méthane, et par ailleurs importer, et qui ne viendra pas, comme je le disais tout à l'heure, en vélo jusque sur la Grand Place de Bruxelles. Ça, c'est clair. Ça, ce sera un bateau. Donc, il y avait là un bilan, si vous voulez, un éco-bilan CO2 qui était clairement négatif. Par ailleurs, pour d'autres raisons, des producteurs de viande européens, et c'est pour ça qu'on sait qu'aujourd'hui, ce traité ne sera pas soutenu par la France. Il y a une mobilisation de la paysannerie française et des éleveurs français, mais aussi en Autriche ou en Irlande, qui savent qu'ils ne sont pas compétitifs en termes de prix, en compétitivité prix au kilo, pour des productions de bœuf. Enfin, c'est la même viande, quoi, je veux dire, mais ils sont moins compétitifs. Ils ne bénéficient pas des mêmes économies d'échelle. Nous n'avons pas en Europe un modèle d'agriculture extensif, mais un modèle d'agriculture intensif, avec des coûts unitaires plus importants.
Alors
Alors,
regardons ça dans un cadre plus large. Qu'est-ce que veut faire l'Union européenne pour combattre la déforestation? Parce qu'il paraît qu'ils ont bien compris le problème.
Oui, bien sûr. Alors, je crois qu'il faut pas dire que tout commence aujourd'hui. Il y a toujours eu une politique d'engagement volontaire à travers un concept qui s'appelle la responsabilité sociale de l'entreprise, de limiter cette déforestation importée. Est-ce que c'est un échec? C'est un bilan en demi-teinte. On constate bien que du côté des importations bovines, rien n'a changé. On est toujours sur la même filière, soja transgénique et transport de viande jusqu'en Europe. En revanche, pour le soja matière première, dans le bassin amazonien, il y a eu des résultats qui étaient plutôt positifs. Cela dit, on ne peut pas dire non plus que la lutte contre le réchauffement climatique est un succès retentissant. Et donc, il va falloir passer aujourd'hui, si du moins nous voulons conserver un climat qui reste quand même un tout petit peu propice à la vie, je veux dire, parce que. Je veux dire, à plus 3 degrés, sur les 25 prochaines années, on va beaucoup souffrir. Et il y a une urgence climatique, elle est là. Donc l'idée de la Commission européenne aujourd'hui est de sortir de ce cadre de l'engagement volontaire qui, c'est toujours l'histoire de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, à moitié marché, pour entrer dans quelque chose de plus volontariste. Et donc on va lister toute une série de produits qui vont devoir répondre à des critères de traçabilité et de durabilité pour pouvoir être un produit, pour pouvoir être importé en Europe.
Alors, il faudra peut-être expliquer un petit peu le terme de traçabilité.
La traçabilité, c'est exactement le contraire de ce qui se passe aujourd'hui avec la filière soja. Il y a du bœuf qui arrive d'Amérique du Sud, d'Argentine ou du Brésil. Nous ne savons pas ce qu'il a mangé, ce bœuf. Il n'y a pas de critère de traçabilité. On ne voit pas entre la naissance de ce bovin et son abattage et sa consommation sur le marché européen, quels ont été les éléments qualitatifs de transformation et de production de la valeur ajoutée. On ne sait pas ce qu'il a mangé, on ne sait pas spécialement ce contre quoi il a été vacciné, si éventuellement il aurait même subi à un moment donné, ça arrive aussi, un engraissement artificiel à base notamment d'antibiotiques ou de stéroïdes, de produits qui dopent la croissance du bétail. Donc c'est ça la traçabilité. La traçabilité, c'est vraiment avoir une idée complète du processus qualitatif de la valeur ajoutée à partir de la naissance du bovin ou à partir de l'extraction de la matière première jusqu'à son acheminement, pour le dire de manière plus globale, sur le marché européen. C'est ça la traçabilité. Alors la traçabilité, c'est une technique qui va définir une série, qui va définir et permettre de repérer un ensemble de processus d'augmentation de la valeur. Et la philosophie de cette traçabilité dans les projets qui vont devoir être avalisés encore par le Parlement européen, ça va être de déterminer la durabilité des process. Et si à un moment donné du process de fabrication sur la chaîne de valeur dans ces pays, on observe des éléments qui sont non durables, donc typiquement excès de GM, excès de pesticides et évidemment surtout présence d'une déforestation à l'origine de la production, eh bien là on va pouvoir mettre un veto, en tout cas on va pouvoir s'opposer légalement à l'entrée de ce type de produit. C'est une avancée tout à fait considérable en termes de lutte contre les émissions de CO2. La déforestation importée, c'est un phénomène important. On signalait tout à l'heure la superficie qui était mise en jeu, 3,5 millions d'hectares entre 2005 et 2017. Donc c'est un élément important. On est qu'au tout début du processus. La liste des produits reste encore, on est à un stade très préliminaire. Il faudra l'aval du Parlement européen. Et par ailleurs, la liste des produits reste limitée. Hein, on parle du bois, du cacao, du soja. Toujours pas de l'huile de palme, du café et de l'ameublement en bois. Donc, il reste en matière. Il y a aussi le bœuf. Donc, cette liste est appelée très clairement, à la fois en termes de critères de durabilité et aussi en termes de produits repris, à être amplifié dans un futur proche. Je signale simplement, parce qu'il ne faut pas toujours être du côté de la critique, que passer de la philosophie de l'engagement volontaire et de la responsabilité sociale de l'entreprise à celui de l'obligation légale constitue déjà un progrès qualitatif important.
Eh bien, les ONG sont évidemment, ils disent que c'est un pas dans la bonne direction, mais ils sont pas tout à fait contents. Vous l'avez déjà dit qu'il y a certains produits qui ne sont pas encore concernés. Et puis, les ONG parlent aussi de l'effet de report. Si la déforestation sera interdite, on fera peut-être des dégâts ailleurs. Là, il y a d'autres écosystèmes qui sont menacés.
Oui, ça, je peux l'envisager, hein, mais l'effet de report, de toute façon, il est difficilement... Oui, On pourrait toujours imaginer, à partir du moment, moi je crois que l'effet de report, il faut le relativiser. À partir du moment où on liste des produits, on liste des zones productives qui sont spécialisées dans le commerce international sur certains segments de chaîne de valeur. Donc on peut difficilement imaginer que demain l'Afrique va remplacer l'Argentine pour la production de bovidés. Ça ne s'est pas vu au cours du 19e et du 20e siècle. On peut quand même se dire que ça ne va pas se produire ici maintenant au 21e siècle. Pour moi, le problème, c'est que... Alors, est-ce qu'on va assister à de la déforestation en Europe? Vous savez, la déforestation, si elle est importée, c'est parce qu'il n'y a plus beaucoup de forêts à sacrifier en Europe. Les États-Unis sont loin derrière l'Union européenne en termes de déforestation. Je constate quand même qu'ils ont du soja transgénique chez eux et qu'ils peuvent vraiment... Enfin voilà, ils sont assez... Voilà, les réglementations américaines sont ce qu'elles sont en matière de normes phytosanitaires. Donc, ils n'ont pas besoin de déforester ailleurs, puisqu'en réalité, les process peu coûteux que nous importons, nous, à partir de zones de déforestation, ils les ont déjà complètement implémentés sur leur marché et seraient d'ailleurs demandeurs d'exporter une série de leur alimentation bon marché à destination de l'Europe. Donc, je pense vraiment qu'on... Pour moi, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. On est vraiment dans une situation en Europe où on va s'obliger quelque part, et ça fait vraiment partie du Green Deal de la Commission européenne, à revoir progressivement nos modes de consommation et de production dans la filière alimentaire. Ce qui me pose davantage question, c'est l'absence d'un certain nombre de produits de cette liste. L'absence de l'huile de palme, et rien ne m'indique, mais j'ose l'espérer, en tout cas ça irait dans le bon sens, que l'huile de palme soit un jour reprise dans les produits de la déforestation à bannir de nos importations, ça ce serait vraiment une amélioration qualitative importante, hein. Je rappelle quand même la place de l'huile de palme, je crois que c'est quasiment 25% de la déforestation importée dans nos pays, hein. Je crois que c'est... Oui, c'est ça, c'est 25%. Je viens de recompiler ces chiffres. Donc, il y a des progrès à effectuer, les ONG ont raison. Mais je pense qu'avec ce changement de philosophie, vous savez, il y a 10 ans, on aurait dit plus d'huile de palme indonésienne en Europe. Et tout le monde aurait rigolé. C'était la meilleure blague de l'année. Parce que ce n'était pas du tout envisageable. L'huile de palme est jusqu'à présent encore très intégré dans les processus de fabrication d'aliments, notamment les pâtes à tartiner. Bien. Aujourd'hui, avec une loi qui va déjà commencer à pointer du doigt le bois et l'ameublement, mais aussi le soja et le cacao, eh bien, philosophiquement, on peut espérer raisonnablement qu'un jour, il y aura une interdiction de ce type-là sur l'huile de palme. Bien entendu, ce sera aux ONG et à la société civile à continuer à exercer sa pression et son dialogue avec les institutions communautaires.
Eh bien, la déforestation, comme on a vu, c'est un problème extrêmement large et compliqué, et c'est extrêmement important qu'on le fait. Alors, on va suivre le dossier dans le futur, ce qui en résulte, aussi avec la présidence française qui en a fait une priorité. Mais malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci beaucoup et à la prochaine.